président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interroger les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous donne la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'y aurais cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'un âne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée. Parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience. Aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous donne la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous donne la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Bonjour, nous sommes de retour après 15 jours d'absence et nous vous rappelons que le 19 dernier, janvier dernier, nous étions un peu plus de 2 millions à battre le pavé dans toute la France pour manifester notre non à l'allongement de la durée des retraites. Ceci explique que nous avons décidé aujourd'hui, avec Nicolas Da Silva. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
De nous pencher sur, justement, la bataille de la Sécu, une histoire du système de santé. On va parler des retraites en troisième et dernière partie, mais on va parler de ton livre, donc La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé, publié aux éditions La Fabrique, pour un prix modique de 15 euros, mais vraiment, c'est un prix modique, vu la quantité d'informations qu'il y a. C'est vraiment donné. Alors, Nicolas, tu pars du constat qu'en 1946, un pays ravagé par la guerre, ruiné complètement, fait la sécurité sociale. En 2023, un pays on ne peut plus riche, comme jamais, ne peut pas la faire. Pourquoi ?
Alors, Peut-être qu'avant de dire pourquoi, ce serait utile de mettre un peu plus de mots sur ce paradoxe, sur cette problématique qui est le fil directeur du livre. Et peut-être encore avant, je voudrais quand même vous remercier à tous et à toutes de m'avoir invité, c'est un véritable honneur. Alors, vraiment, insistons sur cette problématique qui fait le fil conducteur du livre. J'ai été, en tant qu'universitaire, mais aussi en tant que citoyen, biberonné, éduqué à cette idée selon laquelle la sécurité sociale, c'est une idée vraiment glorieuse, c'est une institution extraordinaire qui aide les gens, mais que, vous comprenez, le monde a changé, et qu'aujourd'hui, on ne peut plus la payer, la sécurité sociale. Et il y a des déficits, il y a des difficultés liées à la compétition internationale, d'autres qui seraient liées à l'abus des assurés, l'abus des personnes qui ne font pas œuvre de moralité lorsqu'ils recourent à la sécurité sociale, et que la sécurité sociale, dans un contexte comme celui-là, pour la sauver, il faut la réformer. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, c'est exactement ce que nous dit le gouvernement en ce moment au sujet des retraites. Pour la sauver, il faut la réformer. En réalité, je suis comme un petit peu tout le monde, mais dans les médias, c'est pas qu'à l'université, dans les médias aussi, il y a vraiment cette idée assez constante que il faut réussir à faire des économies pour sauver ce beau projet. Or, quand on s'interroge justement d'un point de vue un peu historique, quand on fait quelques pas de côté, on se pose la question, mais dis donc, cette sécurité sociale, d'où elle vient? Dans quel contexte elle a été instituée? Alors évidemment, c'est bien plus long et bien antérieur à 1945, mais si on s'arrête à ce moment 45, c'est incroyable finalement. Parce qu'en 45, on sort de la guerre. En 45, le niveau de vie des ouvriers, pour prendre cette catégorie de la population, est retombé à celui qu'il était au 19e siècle. Bien sûr. Les gens mangent avec des tickets de rationnement pendant très longtemps. Il y a des problèmes d'électricité, de chauffage, de transport, de logement, bien plus importants qu'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de minorier ce qu'on vit aujourd'hui. Mais il faut avoir en tête que les personnes qui nous ont précédés, les militants, les militantes qui nous ont précédés, avaient une situation qui était bien plus difficile que la nôtre. Et pourtant, ils ont fait la sécurité sociale. Aujourd'hui, on n'avait jamais été si riche. Alors bien sûr, il y a une crise, et en fait, on est en crise permanente depuis des années. Mais même quand on regarde les indicateurs de richesse traditionnels, on se rend compte que finalement, aujourd'hui, on a rarement été aussi riche. Et pourquoi, alors qu'on a, rarement été aussi riche, il faudrait sans cesse réformer la sécurité sociale au sens de réduire les droits des gens, réduire l'accès aux droits, etc., etc. C'est vraiment cette interrogation que j'essaie de développer dans le livre. Et alors, pour les gens qui voudraient des images plus contemporaines, pas la peine d'aller chercher à 1946, souvenez-vous. Alors moi, ce bouquin, il porte sur le système de santé. Et sur les questions de santé, souvenez-vous, en 2018, Emmanuel Macron, président de la République, qui est en déplacement dans un CHU et qui voit une aide-soignante, une infirmière, une infirmière, merci, qui lui dit « Mais vous rendez bien compte, monsieur le Président, on n'arrive plus à travailler. On est dans une souffrance institutionnelle organisée. Il nous faut des moyens pour soigner les gens. Il nous faut des moyens pour travailler convenablement et ne pas nous-mêmes tomber dans des situations de burn-out. » Et que dit le Président ?
Il n'y a pas d'argent magique.
Il n'y a pas d'argent magique. Il dit ça en 2018 et on peut le croire. Imaginons qu'on le croit. Pourquoi pas ? 2019, le mouvement dans l'hôpital public se développe très très largement, plus que très très lointain auparavant. C'était un mouvement vraiment exceptionnel d'un point de vue historique. Toujours pas d'argent magique. Et en 2020, situation extraordinaire. Il faut prendre du temps pour réfléchir à ce qui s'est passé en 2020 et d'ailleurs ce qui se passe partiellement encore aujourd'hui. En 2020, on trouve l'argent magique. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue économique en 2020? L'économie est fermée, il y a un confinement, toute une partie de la population reste chez elle, les entreprises cessent leur activité, et pourtant, les salaires, imparfaitement bien sûr, continuent de tomber. Et pourtant, les prestations sociales se développent. On va payer des vaccins, on va donner des primes aux soignants, allonger des droits qui avaient été prévus d'être supprimés, comme la couverture santé solidaire. Solidaire à l'époque, le nom a changé, mais l'idée c'est que on a en 2020 quelque chose d'incroyable, alors qu'on nous a toujours dit qu'il n'y avait pas d'argent magique. Cette fois-ci, on nous dit, on peut le faire. Et qu'est-ce qui a changé ? En fait, ce qui a changé, c'est pas du tout la situation économique, c'est beaucoup plus la situation politique. D'où l'enjeu de ce livre, qui est de se poser la question, mais pourquoi ce qui est impossible un jour devient possible le lendemain ? Et tout l'enjeu du bouquin, c'est de montrer à quel point la sécurité sociale, c'est une institution qui est politique, au moins autant qu'économique, et que les difficultés qu'on a aujourd'hui sont des difficultés avant tout politiques, c'est-à-dire dans la distribution du pouvoir sur la protection sociale.
Alors, tu dis bien que l'histoire de la production de la sécurité sociale est inscrite dans la lutte des classes. L'État social, dans cette lutte, joue la carte capitaliste contre son adversaire, l'auto-organisation populaire, la sociale.
Alors, c'est la thèse du bouquin, hein, c'est de mettre en évidence l'opposition historique entre deux formes de protection sociale publique. J'insiste. Deux formes publiques. C'est-à-dire qu'on est vraiment cette idée qu'il y a du public, mais que le public ne se résume pas à une seule forme d'organisation qui serait l'étatique. Il y a du public qui est non étatique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit avec des politiques sociales publiques, de la protection sociale publique, qui est étatique. C'est l'État qui décide de tout pour la sécurité sociale. Et c'est bien là le problème. Or, historiquement, on peut mettre en évidence l'existence, parfois furtive, parfois massive, comme en 1946, de formes de protection sociale publique non étatique. C'était le régime général tel qu'il a été conçu en 1945-46, évidemment avec beaucoup de limites, beaucoup de choses éventuellement à améliorer. Néanmoins, quand on regarde d'un point de vue historique, l'auto-organisation dans le champ qui m'intéresse, celui de la protection sociale, celui de la sécurité sociale, a conduit à une opposition entre des politiques publiques portées par l'État, l'État social, et celles qui sont portées, dirigées par les personnes elles-mêmes, les intéressés eux-mêmes, ce que j'appelle dans le livre la sociale.
Alors revenons à l'histoire, justement. Revenons en arrière et mettons un curseur à 1789. Qu'est-ce qu'il y a en 1789, à part la Révolution, qu'on nous enseigne tous, le 14 juillet, bien, mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose d'important, et c'est même là le début de l'étatique qui perdure de nos jours, quelque part.
En tout cas, c'est le début...
Le discours étatique.
Oui, c'est le début des interrogations, pour la période qui m'intéresse, hein, sur l'opportunité pour l'État de prendre en charge les politiques de santé en particulier. Donc là, maintenant, je vais peut-être plus me concentrer sur les politiques de santé qui sont l'objet de mon livre. Ce qui se passe en 1789 doit être mis dans un contexte plus large, qui est celui de la transition du féodalisme au capitalisme, donc des modes d'organisation de la société. Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, dans la société féodale, les institutions qui sont chargées du soin sont pas les mêmes que celles qui vont exister dans les sociétés capitalistes comme les nôtres. Et en fait, 1789, c'est pas un moment où tout se passe, mais c'est un moment qui cristallise des évolutions qui mettent plusieurs siècles. C'est pour ça que je commence le livre à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire que cette transition et qu'est-ce que ça change ? En fait, dans un monde féodal, les institutions qui ont en charge non seulement les personnes malades, mais aussi toute la misère sociale, pour aller vite, c'est l'Église, avec la charité. Et c'est pour ça que très massivement, alors il n'y a pas qu'elle, il y a aussi des communes qui sont de plus en plus laïcisées, mais massivement, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, avant la Révolution, dans le monde féodal, c'est l'Église qui se charge de la prise en charge des gens, et c'est pour ça que, par exemple, les hôpitaux sont très liés à la tradition chrétienne, et que c'est l'Église qui a des moyens pour le faire. Elle utilise une partie de ses ressources, c'est un grand propriétaire terrien, l'Église, dans le monde féodal, elle utilise une partie de ses ressources pour justement s'occuper des personnes qui sont dans la difficulté. Exactement, notamment les indigents, mais aussi les veuves, les orphelins, les personnes qui sont qualifiées de fous, qui sont en fait en souffrance psychique, etc., etc. Et avec la Révolution, on arrive à un moment très important d'un point de vue de la déchristianisation de la société. Alors pour tout un tas de raisons que j'évoque dans le bouquin, hein, mais qu'est-ce qui se passe ? Le poids de l'Église dans la société recule. Or, le poids de l'Église dans la société recule. La question qui va se poser, mais qui va prendre sa fonction d'un point de vue de prise en charge des questions sociales et de santé. Alors, 1789, c'est assez intéressant parce que, en fait, à cette période, la Révolution, on peut dire, sans exagérer, que le grand perdant de 1789, mis à part le roi qui a perdu sa tête, c'est surtout l'Église, plus que la noblesse. La noblesse va réussir à beaucoup garder ses positions de pouvoir. Mais celle qui va beaucoup perdre, c'est l'Église, notamment parce qu'elle perd la dîme, mais aussi parce qu'elle perd une grande partie de ses propriétés. Et donc, on a vraiment une situation très problématique où l'Église qui s'occupait de la charité devient de plus en plus, enfin passe à une situation où elle est de moins en moins en capacité de le faire, alors que paradoxalement, le monde capitaliste se déploie. Et ça, dans ce monde capitaliste, les gens qui travaillent, les travailleurs, ils sont plus confrontés à des situations de travail difficiles et ils sont, désocialisés, ou en tout cas, ils perdent les modes de socialisation antérieurs, comme la famille ou la commune, parce que le capitalisme, l'industrialisation, a pour effet de produire de l'exode rural. Et donc, on a une situation où il y a des masses de gens de plus en plus importantes qui connaissent des conditions de vie plus difficiles, au travail ou dans les villes, et qui n'ont pas de réponse parce que l'Église n'est plus en mesure de la lui fournir. Et c'est pour ça que la question se pose, alors en 1789, mais déjà avant 1789, les tenants du pouvoir sont très au courant de toutes ces questions, c'est juste qu'ils ne font rien, ou très peu de choses. Et en 1789, dans les différentes commissions qui sont organisées à l'Assemblée ou à la Convention, on se pose la question, qui va prendre en charge les indigents ? Déjà, se pose la question, et si c'était l'État ? Et il y a des plans qui sont extrêmement avancés, extrêmement modernes. Et c'est quelque chose que j'insiste dans le livre, c'est que la façon de problématiser les problèmes d'accès aux soins, d'accès à la protection sociale, cette façon de, de problématiser ces problèmes, elle reste globalement
La même
sur toute la période. Et on se pose déjà la question, oui, mais si l'État s'oblige, alors ça va générer des abus, ça va générer de la paresse, ça va générer des inefficacités. Et on a déjà des personnes à l'Assemblée pour nous dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des droits pour certaines catégories de personnes, notamment les personnes qui sont en capacité de travailler. Et donc, il faut trier entre les bons pauvres et les mauvais pauvres, aider les bons, ne pas aider les mauvais. Et donc, on a des plans, par exemple, où il est question, pourquoi pas, d'appointer par l'État, par des deniers publics, des officiers de santé dans chaque département qui serait capable, c'est pas des départements, c'est des unités géographiques plus petites, mais dans chaque circonscription, d'appointer un officier de santé qui aurait la possibilité de donner des boîtes de médicaments gratuites à des personnes qui seraient malades. Et donc, ça serait vraiment cette idée que l'État a une obligation vis-à-vis des personnes qui sont des bons pauvres et qui sont malades. Alors, évidemment, la Révolution française, par certains aspects, c'est une révolution de masse, une révolution de classe populaire, mais c'est aussi une révolution bourgeoise. Et donc, à la fin, ce qui se passe, c'est que quand même, la grande réponse, c'est de dire non. C'est de dire que l'État ne s'immiscera pas dans les questions de protection sociale, parce qu'il ne faut pas remettre en cause la libre entreprise, et il faut mettre toute la protection sociale sur la libre prévoyance. Si vous pensez que vous pouvez être malade dans le futur, et bien vous n'avez qu'à mettre des sous de côté. Et donc, on va essayer de développer des caisses d'épargne, par exemple. Et même pire que ça, pour d'autres raisons, qui sont les raisons de disciplinarisation et de surveillance des classes
laborieuses,
on va interdire le fait que les gens s'assemblent. Donc ça va être les fameuses lois Allard, le Chapelier, qui interdisent les rassemblements, notamment les rassemblements de gens qui pourraient avoir l'idée de créer des formes de solidarité pour les mauvais jours. Et donc la réponse à la fin de la Révolution, elle est double, et il faut comprendre cette réponse, parce que c'est un peu aussi là un fil problématique que j'essaie de tirer tout au long du livre. D'un côté, on a les entreprises, le capital, qui met à mal la santé des travailleurs, qui ne veut pas leur octroyer les moyens de s'occuper de leur propre santé. Et de l'autre côté, on a un État qui dit non, qui refuse de mettre en place des systèmes de protection sociale ambitieux qui permettent aux gens d'améliorer leur vie. Et donc c'est bien dans l'étau entre l'État et le capital que vont se créer les premières formes de protection sociale auto-organisée.
Voilà.
Et ça, c'est quelque chose d'important parce que l'auto-organisation, bien entendu, pour beaucoup de militants, c'est une vertu. C'est quelque chose qu'ils désirent et donc qu'ils essayent de propager. Mais aussi, pour d'autres militants, c'est surtout une nécessité. On s'auto-organise parce qu'on est sous le feu de l'État et du capital. Et c'est comme ça que vont naître les premières sociétés de secours mutuel.
Et une période propice à l'auto-organisation, c'est quand même la Commune.
Voilà. Alors, je parle un petit peu de la Commune dans le bouquin, parce que ça va être un moment très, très important sur la question de l'auto-organisation. Alors, peut-être qu'avant d'arriver à la Commune, il faut voir qu'est-ce qui se passe avec ces mutuelles. Mmh. Donc, les mutuelles, les sociétés de secours mutuels, c'est comme ça qu'on les appelle au début du 19e siècle, elles vont se développer, mais elles vont se développer dans une forme d'ambivalence. Elles vont être à la fois des endroits de contestation de l'ordre établi, c'est-à-dire de contestation de la domination du capital, de la domination de l'État, où vont se créer des formes de sociabilité nouvelles, où on va essayer de contourner les interdictions faites aux ouvriers de se rassembler, de s'entraider. D'ailleurs, il y aura beaucoup de répression vis-à-vis de ces mutualistes. Qu'est-ce qu'on y fait concrètement ? Bah, on met de l'argent en commun pour, à cette époque-là, simplement, payer les frais funéraires d'un camarade qui meurt, pour payer des indemnités journalières, c'est-à-dire le fait que quand on ne peut pas aller travailler, eh bien, on puisse être rémunéré quand même, parce que c'est le grand problème. Le problème du point de vue du système de santé à cette époque-là, c'est même pas le fait de soigner ou pas soigner, c'est le fait de pouvoir continuer à manger lorsqu'on n'est pas rémunéré. Donc ça, c'est une première forme un peu contestataire. Ça va être, pour reprendre les mots d'une historienne, des petits comités de lutte. Ces sociétés de secours mutuels qui ont une place très importante dans l'histoire du mouvement social en France. Mais elles sont ambivalentes, ces mutuelles, parce qu'il y a aussi des sociétés de secours mutuels qui sont très liées au pouvoir. Parce que déjà, les préfets se disent « Oh là là, dans tel lieu, dans telle entreprise, il y a de l'agitation. Il y a des ouvriers qui se mettent en colère parce qu'il y a des accidents du travail, ça se passe mal, etc. etc. » Et donc, ils voient déjà dans la société de secours mutuel une possibilité pour calmer les aspirations révolutionnaires ou au moins de remise en cause de l'ordre établi. Et donc, parfois, alors, à l'initiative d'un préfet, on peut créer une société de secours mutuel pour calmer le jeu social, quoi. Donc, il y a une ambivalence des sociétés de secours mutuels. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, encore une fois, un moment très conflictuel en 1952, donc à la suite de la révolution de 48, il va y avoir... 1852. il va y avoir un décret très important qui va légaliser les mutuelles, qui étaient interdites jusque-là. Et donc là, c'est Napoléon qui change complètement la doctrine. Jusque-là, l'enjeu, c'était...
Napoléon III.
Oui, pardon. jusque-là, l'enjeu, c'était de... comment dirais-je ? C'était de réprimer les gens qui s'organisent. Cette fois-ci, l'enjeu, et c'est un mot auquel je suis attaché, ça va être de se réapproprier l'esprit des institutions populaires. Les mutuelles, les sociétés de secours mutuelles, elles avaient, c'était un lieu qui permettait de changer le monde, pour le dire comme ça. Hein. Eh bien... Napoléon III, ce qu'il fait, c'est qu'il va légiférer en autorisant les sociétés de secours mutuelles, mais en les séparant en deux entités. D'un côté, des mutuelles approuvées, dites approuvées, hein, c'est un statut légal, approuvé par le pouvoir politique, et de l'autre côté, des mutuelles autorisées, c'est-à-dire qu'elles sont légales, mais c'est tout ce qu'elles ont. Parce que cette séparation, elle n'est pas sans projet politique. Les mutuelles approuvées acceptent un contrôle politique sur leur activité, contre des incitations économiques très fortes. On va leur faciliter l'accès...
au papier, au siège, à tous ces petits trucs...
essentiel pour militer. Enfin, tout le monde sait que pour militer, déjà, c'est bien d'avoir un lieu où se retrouver, la possibilité d'avoir du papier, un compte en banque, ce genre de choses. Alors que les mutuelles autorisées, elles auront des droits très réduits, aucune incitation économique. Et pourtant, massivement, le choix qui est fait, c'est le choix des mutuelles autorisées. Parce que l'enjeu, c'est encore de s'organiser, mais s'organiser contre l'État, contre le capital. Et alors, progressivement, le décret de 1852 va réussir à se réapproprier l'esprit mutualiste, parce que effectivement, quand en face vous avez des mutuelles qui ont des avantages économiques importants, qui ont aussi ce qu'on appelle des membres honoraires, c'est-à-dire des notables qui cotisent, qui donnent de l'argent, mais qui n'ont aucun droit à tirer. Pourquoi ils mettent de l'argent ? Bah, ils mettent de l'argent pour avoir un contrôle sur la société. Ça va être, par exemple, le médecin, le bourgeois du coin, qui va donner de l'argent à la société de secours mutuel, ce qui va lui permettre d'avoir la possibilité de proposer des droits plus généreux. Évidemment, pour des gens qui sont dans des situations de souffrance extrême, bah, souvent, c'est plus intéressant d'aller dans ce type de société. Et donc, les sociétés autorisées vont avoir une part de plus en plus faible, et avec la commune, eh bien, il va y avoir une scission radicale du mouvement social entre les mutuelles, qui vont être complètement réappropriées par l'ordre établi, et de l'autre côté, ce qui va devenir le mouvement syndical, voilà, qui, lui, va rester très, très auto-organisé et très
anticapitaliste,
anti-étatiste, même si après, les choses vont évoluer. Et la commune, si j'en parle aussi, même s'il ne se passe pas vraiment grand-chose du point de vue, en tout cas à Paris, je ne connais pas ce qui se passe en dehors de Paris, et c'est une des critiques qu'on pourrait légitimement faire, la commune à Paris, il ne se passe pas grand-chose du point de vue de la santé. Parce que les enjeux, ce n'est pas tout de suite des enjeux de santé, il se passe des choses du côté de la question immobilière, des choses du côté du Mont-Piété, etc., etc. Mais ce qui est intéressant dans la Commune de Paris, c'est le mouvement, c'est la façon dont on crée des institutions nouvelles. La Commune de Paris, voilà, des gens qui sont en lutte contre leur État et contre leur capitaliste. Et qui, pour réussir à avoir une vie à peu près convenable, sont obligés de se de prendre par eux-mêmes le pouvoir pour prendre des décisions qui leur permettent tout simplement de vivre. Donc c'est vraiment cette idée de l'auto-organisation comme solution, mais aussi comme solution nécessaire pour pouvoir vivre. Et alors les exemples, il y en a plein, notamment sur les questions immobilières, les questions d'immobilier, de logement, c'est peut-être mieux dit comme ça. Eh bien, voilà, quand la guerre est finie, l'Assemblée qui est élue, c'est une Assemblée très, très conservatrice, et qui veut récupérer tous les loyers, qui veut expulser les gens parce qu'ils ne payent pas. Or, bah, l'économie est à l'arrêt parce qu'on sort de la guerre, on sort du siège, et forcément, ça crée des difficultés impossibles pour la plupart des gens. Que va faire la commune ? Bah, la commune, parce que les gens qui décident dans la commune, ce sont des gens qui vivent ces situations, c'est des intéressés eux-mêmes, eh bien, ils vont suspendre le versement des loyers. La même chose pour le Mont-Piété, donc voilà. Ça, vous connaissez le Mont-Piété, ici vous connaissez très bien.
C'est chez ma tante, comme on dit, ils vont suspendre le montant des intérêts et tout le reste.
Exactement, voilà. Et donc c'est bien cette idée que, donc il y a plein d'historiens qui le disent, hein, la commune, même si elle a vécu très très peu de temps, elle va mettre en place une politique sociale progressiste comme jamais auparavant. Pourquoi ? Pas parce que c'était une bonne élection, pas parce que les gens se sont mis d'accord spontanément par le débat. Et c'est parce que les conditions politiques, notamment militaires, économiques, ont fait que ils ont dû prendre leur destin entre leurs mains, ils ont dû prendre le pouvoir, et c'est en prenant le pouvoir qu'ils ont été en mesure d'imposer les mesures qui leur facilitaient et qui leur permettaient d'avoir une vie digne.
Voilà. Alors, nous allons faire une pause musicale, cher Nicolas, et nous allons revenir à 1946.
On s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on s'est battu pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite. Libérez vos camarades, ouvrez la cage aux soixantaines. Ils achètent trop le nage. Du jardinage et du bricolage. Les mots croisés, et puis du sport et aussi
sortis du fusion scolaire. Ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils ont des gueules à la mairie. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Tarte au vin, ou qu'elles ont vu le soleil. Si elles ont un peu la flemme, on s'arrêtera pas là. On veut entendre des cris de joie dans les parcs en été. Des hommes calibérés, les cheveux gris au vent, courant à bois vers le levant. Qu'ils puissent chanter et faire des rondes et réfléchir au nouveau monde. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM, en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes aujourd'hui avec Nicolas Da Silva pour évoquer son livre « La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé » avec une préface de Bernard Friot aux éditions La Fabrique. Alors, Nicolas, avant d'en arriver à l'année 1946, qui est la création de la Sécurité sociale, il faudrait revenir sur les notions de... Sur les notions de guerre totale, que tu expliques très bien dans ton livre, et expliquer en quoi la paix, ce n'est pas une parenthèse entre deux guerres mondiales.
Alors, bien sûr, et c'est très important, peut-être dire que tout ça, évidemment, ça a un rapport avec les politiques sociales, et une politique sociale, enfin une forme de politique sociale particulière, qui est l'État social. Parce que jusqu'à présent, on a parlé essentiellement des mutuelles auto-organisées, donc la sociale, c'est-à-dire les gens prennent par eux-mêmes leur destin entre leurs mains et inventent les systèmes de protection sociale qui sont les plus à même de satisfaire à leurs besoins, à leurs désirs. Mais évidemment, on pourrait se dire, d'accord, mais là-dedans, où est l'État? Où est l'État social? Puisque même si on prend les commentaires aujourd'hui, l'enjeu, ce serait le retour de l'État social. Et donc c'est une question que j'essaie de prendre à bras le corps dans ce livre, en me posant la question, tout simplement, et d'où vient l'État social? Tout au long du 19e siècle, il n'y a pas d'État social. J'en ai parlé un peu, l'État refuse d'intervenir, ce qu'il fait au mieux... Si on peut dire que c'est un mieux, c'est ce qu'il fait en 1852 avec l'invention, enfin le décret sur les différents types de mutualité. Donc il incite et il oriente vers des formes spécifiques qu'il préfère plutôt que d'autres. Éventuellement, il réprime. Mais l'État social tel qu'on le conçoit aujourd'hui n'existe pas. Et il n'existe pas tout simplement dans les statistiques de dépenses publiques. Quand on prend cet indicateur qui permet de savoir que fait l'État avec son argent, eh bien on regarde. Les dépenses sociales dans les dépenses publiques n'existent pas jusqu'en 1914. Les dépenses de l'État lui-même en entier, entre la révolution 1789 et 1914, restent à peu près au même niveau, environ 10% du PIB. Alors, il n'y a pas d'État social. Pour reprendre une expression du sociologue Numa Murad, l'État social... jusqu'en 1914, il n'existe que dans les débats. Oui, on en parle beaucoup de l'État social. Il y a ici ou là quelques lois, c'est vrai, mais ce sont des lois qui n'engagent pas une forme d'intervention publique massive, ou en tout cas aussi massive qu'elle serait nécessaire. Il faut se rappeler, on est au 19e siècle, on va être au début du 20e siècle, où il y a des situations de pauvreté qui sont très importantes, même parmi la classe des travailleurs. Et pourtant, pas d'État social. Alors, d'où vient l'État social ? Donc, dans ce livre, je m'appuie sur des travaux récents en sciences sociales qui disent que l'État social, en France, naît de la guerre totale. Mmh. Alors, je vais essayer de m'expliquer. La guerre totale, d'abord, qu'est-ce que c'est ? La guerre totale, c'est un type spécifique de guerre. Les guerres antérieures aux guerres totales, il y en a encore aujourd'hui, mais elles sont antérieures aux guerres totales, c'est les guerres dans lesquelles on peut séparer les zones de combat et la vie civile. Donc il y a des endroits où il y a les combats, mais ça n'impacte pas massivement la vie civile. Les guerres totales sont des guerres spécifiques qui ont pour particularité de annihiler la séparation entre le soldat et le citoyen. Tout le monde est en guerre, toute l'économie se met en guerre pour gagner justement la guerre. Le cas typique des guerres totales, on pourrait discuter s'il y en a d'autres qui rentrent dans cette définition, ce sont évidemment les guerres mondiales. Qu'est-ce qui se passe dans les guerres mondiales ? Bien évidemment, non seulement une masse considérable de la population est au front, se bat physiquement, mais le reste de la société, eh bien, elle est aussi en guerre à l'arrière. Parce que toute l'économie, mais pas seulement, toute la politique, toute la vie culturelle, la vie sociale, elle est réorganisée pour gagner la guerre. Et l'idée, c'est d'essayer de démontrer que l'État social, les politiques sociales portées par l'État, naissent en France avec la guerre totale, et en particulier la guerre de 14. Alors, comment on explique ça ? Alors, déjà, on voit que dans les statistiques, bien, il y a des politiques qui coûtent des sous, donc qui ont un véritable impact sur la vie des gens. Il n'y en a pas eu en 14. Hein. Le niveau de dépense est le même entre 1789 et 1914. Alors, comment est-ce que vont naître les politiques sociales portées par l'État ? À trois niveaux, elles naissent. En préparation de la guerre totale, en raison de la conduite de la guerre totale pendant la guerre, mais aussi en raison des conséquences de la guerre totale. C'est à ces trois moments que l'État va enfin prendre des positions pour mettre en place des politiques sociales. Alors d'abord, en préparation, je donne un exemple, il y en a d'autres dans le livre. Par exemple, donc, la politique familiale qui vise à favoriser les naissances est très liée à la guerre et à la préparation de la guerre. Pourquoi ? Parce qu'en 1871, au sortir de la guerre avec la Prusse, une fois que la Commune aura été écrasée par la Troisième République, quel est le souci principal des élites politiques, enfin l'un des soucis principaux des élites politiques, c'est la revanche. Et pour préparer la revanche, il faut une économie et évidemment des moyens militaires, mais il faut aussi des hommes pour aller faire la guerre. Et donc, le souci qui se pose à ce moment-là, c'est le souci de la dépopulation. Et ce que montrent les historiens, c'est que le débat public est inondé du problème de la dépopulation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on observe que la natalité en France est inférieure à la natalité en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y naît moins d'enfants. Et ça, c'est un grand problème pour les élites politiques. Et quand je dis les élites, c'est des gens comme présidents du Conseil, des ministres importants, qui expliquent dans des lieux de pouvoir comme l'Assemblée que effectivement, il faut se poser la question de savoir comment on va gagner la prochaine guerre avec nos soldats tout vaillants si on a moins de soldats que les soldats allemands. Et ça, c'est un problème. Face à ce problème, naissent tout un tas d'associations, notamment portées par des militaires, dont l'objectif est de faire du lobbying pour que l'État mette en place des politiques sociales avantageuses pour les familles nombreuses, en leur donnant...
Les politiques natalistes, quoi.
Exactement, les fameuses politiques natalistes. Dont, alors moi, je ne sais pas vous, hein, mais moi, à l'école, on m'a toujours appris, ah oui, le taux de natalité en France est supérieur au taux de natalité dans les autres pays européens, et c'est vachement bien. Alors, exactement, et on ne sait pas pourquoi c'est vachement bien, on ne sait pas pourquoi il faudrait faire plus d'enfants qu'ailleurs, etc., etc. Eh bien, une des origines, historiquement, eh bien, elle vient de là. Alors, il n'y a pas que ça, mais elle vient de là, et effectivement, il y a tout un tas de lois qui vont être... qui vont être prises à ce moment-là avec des dispositions qui facilitent la vie des familles nombreuses. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas utile pour ces familles. Évidemment que quand une famille nombreuse peut avoir des facilités, c'est une bonne chose. Mais il faut avoir en tête que ce qui conduit à mettre en place des politiques sociales, ce n'est pas l'intérêt des mères, ce n'est pas l'intérêt des enfants, l'intérêt des familles. C'est l'intérêt de l'État qui y voit le futur soldat.
La chair à canon.
Exactement. Premier point, la préparation à la guerre. Alors, il y aurait d'autres exemples, hein, mais je ne m'attarde pas. Deuxième point, surtout, la conduite de la guerre. Et dans la conduite de la guerre, il va se passer quelque chose de très important, c'est que, en fait, ça va être toute l'économie, toute la politique du pays change quand la guerre est déclarée. Alors, encore une fois, si, comme moi, vous avez des souvenirs un peu épars de vos cours d'histoire, globalement, on a l'impression que voilà, les périodes de guerre sont des parenthèses entre des périodes de paix. Alors qu'en réalité, les périodes de guerre, elles ouvrent de nouvelles façons de concevoir le monde, de nouvelles façons de faire le monde. Par exemple, souvent, on parle de la France d'après 45. Alors qu'en réalité, il faudrait plutôt parler de la France d'après 39. Hein, parce que pendant la guerre, la société change et ces changements vont avoir un impact décisif sur l'après-guerre. Alors, je donne quelques exemples. Un exemple qui est donné, par exemple, par un économiste qui s'appelle Thomas Piketty, qui est bien connu, qui est spécialiste des questions d'imposition, et il se pose la question de savoir, mais comment naît l'impôt sur le revenu en France ?
Tout à fait.
En fait, sous la Troisième République, il explique, hein, qu'il y a des débats incessants dès le début de la Première République pour savoir s'il faut mettre en place un impôt sur le revenu. Donc, dès les années 1870. Et ça parle, et ça parle, et ça parle, et ça parle. Mais il ne se passe rien. Coup de tonnerre en 14, la guerre est déclarée. Le même été 14, l'impôt sur le revenu est enfin voté à l'Assemblée nationale. Donc, on voit comment la guerre impose des changements institutionnels majeurs. Beaucoup plus que le débat. Beaucoup plus que la recherche de compromis à l'Assemblée nationale. Et ce sont des institutions qui sont majeures dans nos économies aujourd'hui. Et c'est bien d'avoir une idée de la façon dont elles naissent, quelles sont leurs origines. Ça, c'est un exemple. Mais il y a plein d'autres exemples. Parce que la guerre, si c'est, sur le champ de bataille, un endroit qui est absolument complètement désordonné, c'est le chaos sur le champ de bataille. Pour gagner la guerre, il faut organiser le chaos à l'arrière.
L'économie.
L'économie à l'arrière. Et donc, il faut qu'il y ait une organisation qui soit massivement ordonnée et non pas marchande. Il faut que ce soit étatique. Le marché, c'est la liberté, enfin, en tout cas théoriquement, c'est la liberté des acteurs qui font un peu ce qu'ils veulent. Alors que pour gagner la guerre, non. Il faut tout réorganiser, d'une main de fer. Il faut du commandement. Sinon, on perd. Commandement pour allouer les hommes, commandement pour allouer les femmes aussi, bien sûr, commandement pour allouer le capital, où est-ce qu'on met l'argent, notamment dans quelles entreprises pour produire des armements, pour produire des moyens de transport, etc., etc. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les périodes de guerre, pas nécessairement les guerres totales, toutes les périodes de guerre sont des périodes de construction et de développement massif de la machine étatique et de ses administrations. Alors qu'avant 14, on est dans une économie où finalement il reste encore beaucoup, beaucoup d'aspects qui sont très libéraux, notamment sur les politiques sociales. Avec 14, l'État met sa main sur des secteurs de l'économie et du social qui sont de plus en plus fastes. Ça, c'est la conduite de la guerre. Mais pour ce qui me concerne, c'est-à-dire les politiques sociales, ce qui va avoir un effet très important de la guerre totale sur les politiques sociales, ça va être les conséquences de la guerre. Puisque parmi les conséquences de la guerre, il y a évidemment toutes les destructions matérielles, mais il y a aussi les destructions humaines. Reviennent du front les mutilés de guerre,
oui,
exactement, qui ont besoin à la fois de soins, mais aussi de pensions, lorsqu'ils sont invalides, lorsqu'ils sont trop vieux, etc. etc. Reviennent parfois des... souvent, ne revient personne. Et donc, ça va laisser des veuves, ça va laisser
orphelins.
Des orphelins. Et donc, il faut s'occuper de cette masse considérable de gens qui, auparavant, faisaient comme elles pouvaient, étant donné les circonstances d'avant-guerre. Donc, ça change le rapport social, disons, le contrat social entre l'État et ses citoyens. les citoyens ont payé l'impôt du sang, et en contrepartie de cet impôt du sang, l'État est obligé de mettre en place des politiques sociales. Sinon, c'est la remise en cause de l'ordre établi. Et effectivement, à la fin des guerres, il y a toujours une période de remise en cause très très forte de l'ordre établi. Et donc, pour mettre le couvercle sur ce bouillonnement, il faut mettre en place des politiques sociales. Ça va être le cas dans le logement, ça va être le cas sur le handicap, mais toujours avec cette idée que ce qui compte, c'est d'avoir été à la guerre. C'est pas, les politiques qui naissent pour, par exemple, faciliter l'accès des personnes en situation de handicap à l'emploi, elles ne portent pas sur les personnes en situation de handicap, mais elles portent sur les personnes en situation de handicap du fait de la guerre. Hein? Donc,
mutilées par la guerre.
Exactement. Exactement. Donc l'enjeu, c'est vraiment le contrat qui se joue par la guerre totale. Alors, dans le cas qui m'intéresse, la santé, dès la fin de la guerre, il y a cette idée qu'il faut mettre en place un grand système d'assurance sociale pour organiser les soins et les retraites des classes salariées, de l'industrie et du commerce. Néanmoins, il va falloir attendre une dizaine d'années et les grandes lois d'assurance sociale, celles qu'on appelle vraiment assurance sociale de 1928-1930, justement, elles arrivent que plus de 10 ans après la guerre. Pourquoi 10 ans après la guerre ? Pas parce qu'il y aurait une opposition à l'Assemblée nationale, mais simplement parce que les personnes qui sont chargées de prendre en charge justement le système de protection sociale n'en veulent pas. C'est pas les députés, c'est pas l'État. Hein. C'est les médecins et les mutuelles. Mmh. On a laissé nos mutuelles du 19e, d'après la Commune, complètement réappropriées par le décret de Napoléon III. Eh bien, elles, ce qu'elles veulent, c'est qu'elles veulent garder le pouvoir sur les systèmes d'assurance sociale. Et elles vont se battre pour garder ce pouvoir. Tout projet qui ne prévoit pas le pouvoir des mutuelles est combattu pour la mutualiste. Du côté des médecins, ils s'organisent contre le principe de l'assurance sociale. Alors, ça peut paraître étonnant aujourd'hui, hein. Quoique, quand on regarde les mouvements actuels des médecins, on pourrait se dire que c'est pas si étonnant. Ouais. Les médecins veulent bien être rémunérés par les assurances sociales, mais ils ne veulent aucune contrainte. Donc, tous les projets qui supposent des contraintes sont combattus. Et donc, cette opposition par les acteurs qui sont supposés s'occuper du système fait qu'il y a un long délai entre la fin de la guerre et la loi de 1928-1930, mais c'est une loi qui vraiment naît des conséquences de la guerre et de la nécessité de massifier la protection sociale. D'où cette idée que je défends, mais pas tout seul, avec beaucoup de collègues en sciences sociales, que l'État social en France ne naît pas de la bienveillance de l'État, de la bienveillance des élus, elle naît des conséquences de la guerre totale. Et donc, ça invite à
avoir un autre biais.
Exactement, à se poser la question sur la façon dont on analyse l'État en France, parce qu'on a souvent tendance, et c'est assez facile, à critiquer la main droite de l'État, pour reprendre une expression de Bourdieu notamment, c'est-à-dire la police, l'armée. On est plutôt d'accord pour dire que quand même, il y a quelque chose qui ne va pas avec la main droite. Mais pour ne pas remettre en cause le bébé avec l'eau du bain, on dit toujours, il y a la main gauche, les politiques sociales. Or, on voit dans quelles circonstances naissent ces politiques sociales, et il y aurait aussi des choses à dire sur la façon dont sont conduites ces politiques sociales. Parce qu'une politique sociale qui est pilotée, dirigée par l'État, on le voit aujourd'hui, on le voyait avant la Seconde Guerre mondiale, c'est une politique sociale qui est très paternaliste. Hein, qui va être toujours dans la suspicion de celui qui fraude.
Donc rien n'a changé jusqu'à l'heure actuelle. Donc venons-en à 1946, année des ordonnances. Non, année de la création, parce que les ordonnances ont lieu beaucoup plus tard. 1946, qu'est-ce qui se passe ?
Ce qui est intéressant dans la guerre en France en 1939-45, c'est que c'est une guerre particulière, une guerre totale encore, mais particulière, qui s'organise très vite entre un pôle collaborateur et un pôle résistant. Et donc ça, ça va avoir une incidence importante, c'est que déjà en France, il y a une forte tradition anti-étatiste. Anti-étatiste de droite, bien sûr, mais aussi anti-étatiste de gauche. Et la façon dont s'organise et se déroule la guerre en France va laisser cette idée que à la libération, on ne va pas tout laisser dans les mains de l'État, de l'État qui a collaboré. Parce que si, évidemment, les personnes qui prennent la direction politique de l'État après 1945 ne sont pas celles qui ont directement collaboré, on ne se doute pas que l'appareil d'État dans son ensemble ne peut pas, du fait des masses de personnes en question, être épuré. Et donc la question, c'est de savoir, mais on va pas quand même laisser tout à l'État, l'État qui a, il faut le dire évidemment, il faut le redire, bien entendu, réprimé les populations, bien sûr, résistantes, mais juives et tout un tas de minorités, mais aussi justement, parmi les résultants, les résistants communistes, anarchistes, syndicalistes, hein, c'est eux aussi qui subissent très fortement la répression. Et c'est pour ça que, bah, dans les débats qui se déroulent après-guerre, il y a cette idée que, bah, on ne va pas tout laisser à l'État. Et on va essayer d'avoir des formes de contre-pouvoir. Mmh. Et la sécurité sociale, alors pour plus précisément le régime général de sécurité sociale, parce que ce ne sera pas toutes les institutions de la sécurité sociale, sera dirigé par les intéressés en majorité. Et alors là, il faut s'attarder sur la façon dont on a l'habitude de parler de la création de la Sécu en 45-46. Habituellement, on dit que bah, finalement, la Sécu de 45-46, c'est le fruit d'une unité nationale retrouvée, d'un grand compromis, d'un grand accord, etc. etc. Dans ce bouquin, je ne sais pas si ça s'est entendu, mais en tout cas, oui, je vais le dire clairement, l'enjeu, c'est de dire que les institutions de la protection sociale, ce n'est pas du tout le fruit du compromis. Le fruit du consensus, c'est le fruit du conflit.
Tout à fait.
Conflit militaire, j'en ai parlé, mais aussi conflit social. J'en ai parlé avec les révolutions, et je vais en reparler ici avec 46. Qu'est-ce qui se passe sur le front social en 46? Eh bien, c'est une opposition très forte entre plein de groupes sociaux, non pas sur le fait de savoir s'il faut étendre les systèmes de protection sociale, s'il faut qu'ils soient plus généreux, la protection sociale publique doit être plus généreuse ou pas, mais c'est surtout le fait de savoir qui doit la diriger. L'enjeu, c'est le contrôle politique. Et donc, quand on dit qu'il y a un grand accord en 1945 pour faire la Sécu, pour faire le régime général, bah, ça dépend de quoi on parle. Si c'est pour dire qu'il faut donner plus d'argent, pas de problème. Tout le monde est d'accord. Je suis d'accord pour dire qu'il y a un consensus relatif pour dire qu'il faut plus d'argent pour la protection sociale publique. Parce que de toute façon, l'argent, c'est jamais le problème des classes dominantes. On l'a vu pendant le confinement, pendant le gros de la pandémie. Emmanuel Macron a trouvé l'argent
magique
en claquant des doigts.
Quoi qu'il en coûte.
Exactement. Et pourquoi? Parce que ça lui permettait de garder le pouvoir, de ne pas avoir de remise en cause radicale
du système capitaliste,
et même plus modestement, remettre en cause l'idée que bah, peut-être que les gens qui ont organisé la pénurie et la destruction du système de soins et de prévention sont peut-être un peu responsables, et il faut peut-être un peu leur enlever leur pouvoir, ce qui ne s'est pas du tout passé. Et donc, ça ne s'est pas passé. Pourquoi? Parce que tout de suite, masse d'argent considérable, qui ont été utiles et nécessaires, bien sûr, insuffisantes, mais utiles et nécessaires, parce que l'argent, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le pouvoir. Et c'est là-dessus où il y a une conflictualité très forte en 46, et qui fait qu'on ne peut pas dire que le régime général, c'est le consensus de Gaulle aux communistes. Pas du tout. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que ce conflit? Les ordonnances de 1945, 4 et 19 octobre, elles sont préparées dans le cadre d'une commission pilotée par un conseiller d'État qui s'appelle Delépine. Donc on appelle cette commission la commission de Delépine. Dans cette commission sont représentés des syndicats, des partis politiques, des membres de certains ministères, et se pose la question de comment est-ce qu'on va faire la sécurité sociale. Comment est-ce qu'on va faire le régime général, de sécurité sociale. Donc vous le voyez bien, l'enjeu... contrairement à ce que j'ai un peu suggéré en introduction, c'est pas d'inventer la Sécu. La Sécu, ça existe déjà. Au sens d'assurance sociale, il y en a plein avant-guerre. L'enjeu, c'est comment on fait la nouvelle Sécu. Comment va être organisé le régime général. Et en fait, il va être organisé en donnant le pouvoir aux intéressés. Et ça, c'est important de voir en quoi c'est radicalement opposé à ce qui se passe avant. Avant, les assurances sociales... de 1928-1930, sur la santé et les retraites, elles sont dirigées par les mutualistes, qui sont devenus des notables, qui vont être des grands collaborateurs du régime de Vichy, en tout cas les mutualistes au niveau national, bien entendu. Les assurances sociales sont aussi dirigées par les départements, donc par des commis de l'État, l'administration. Les assurances contre les accidents du travail, qui viennent de 1898, c'est fait par des assureurs à but lucratif, des assurances, et dirigé aussi par des patrons. Les allocations familiales qui existent et qui sont unifiées en 1932, sont dirigées par les patrons, avec aussi une mainmise du clergé. Donc on voit bien que l'assurance sociale, des formes d'institutions de protection sociale, il en existe plein, il y a plein de caisses qui existent. Le point commun de toutes ces caisses, c'est qu'elles ne sont pas dirigées par les gens qui en bénéficient, qui cotisent pour ces caisses. Elles sont dirigées par des formes de la domination. Le patronat, l'église...
Une oligarchie.
Par exemple, disons ça comme ça. Mais en tout cas, elles sont dirigées par des dominants qui, du coup, ont une politique qui est une politique complètement paternaliste, suspicieuse à l'encontre des bénéficiaires. Qu'est-ce qui se passe dans cette commission des Lépine ? Eh bien, le principe est énoncé de dire qu'on va donner le pouvoir aux ouvriers eux-mêmes. À l'époque, c'est essentiellement des ouvriers. Trois quarts des sièges dans les conseils d'administration sont pour des représentants élus ouvriers, un quart pour les patrons. Et bien sûr, la CGT, elle n'est pas d'accord avec ça. Les représentants de la CGT, ils disent, un peu de façon ironique, ils disent, nous, on est très bien avec le concept mutualiste de une personne, une voix. Faisons ça. Et évidemment, une personne, une voix, c'est aussi le concept de démocratie un peu basique. Hein. Mm. Sauf qu'une personne, une voix, c'est-à-dire que le poids des patrons serait réduit quasiment à néant, puisqu'ils sont ultra minoritaires en termes de nombre de personnes. Et donc, dès le début, il y a déjà des oppositions. Et Pierre Larocque, qui est celui qui organise les discussions et qui sera le premier directeur de la Sécurité sociale, va trancher et va laisser, non pas une personne, une voix, mais trois quarts, un quart. Et pas partout. Ça, c'est pour la caisse qui est la caisse santé-retraite. Il va y avoir une caisse séparée. L'ambition de la CGT, c'était d'avoir des caisses unifiées. Il va y avoir des caisses séparées, avec séparées donc une caisse pour les allocations familiales. À l'époque, c'est la caisse où il y a le plus de finances, de dépenses.
La caisse de compensation.
Voilà, c'était le supplément de salaire pour disciplinariser les ouvriers. C'est comme ça qu'utilisait le patronat. La caisse est séparée, et dans cette caisse, c'est même pas trois quarts, un quart, c'est 50-50. Donc on voit à quel point, dès le début, il y a des conflits très forts qui sont non pas sur les sous, mais sur le pouvoir, sur la dimension politique des assurances sociales. Et donc le fait qu'à cette époque-là, donc là on est en 45, hein, la commission des Lépines c'est l'été 45, on est en 45, on voit bien que le fait que déjà à la Libération, il y ait des mouvements sociaux importants, une CGT qui s'organise, qui est ultra revendicative, qui n'a pas du tout envie de laisser l'État faire ce qu'il veut de son côté, évidemment qui est à cette époque-là encore très anticapitaliste, contrairement à des époques plus récentes, bah évidemment, ça donne pas envie de rigoler. Et donc, il y a ces conquêtes-là, qui, si elles se passent dans des bureaux, la commission des Lépine, elles sont liées à des réalités sociales, qui sont celles de la fin de la guerre et de la conflictualité dans la Sécu. Donc ça, c'est ce qui se passe en commission des Lépine. Sauf que, les ordonnances, c'est de l'encre sur du papier. Et faut-il encore monter toutes ces caisses qui vont piquer le pouvoir au clergé, piquer le pouvoir au patronat, piquer le pouvoir aux mutualistes, etc. etc. Et bien pour les faire, il faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette commission, un des groupes représentés qui est très très opposé, en plus des mutualistes, des patrons, etc., etc. Et bien c'est la CFTC. La CFTC qui dit « Ah non, nous on veut pas d'une sécurité sociale comme ça. » Pourquoi elle veut pas d'une sécurité sociale comme ça ? Parce que si on fait des élections, elle est sûre qu'elle est largement mise en minorité par rapport à la CGT, hein, qui en plus à cette époque-là est unifiée encore. Donc elle veut pas de ça. Et elle décide de ne pas participer à la mise en place de la Sécu. Donc les ordonnances de 45, de l'encre sur du papier, mais il faut trouver des militants qui vont dans chaque département monter une caisse primaire, deux caisses, une santé-retraite, accident du travail, l'autre allocation familiale, qui au niveau régional vont monter une autre caisse niveau régional et qui vont monter une caisse au niveau national. Donc il faut des centaines et des centaines de militants, il faut trouver des locaux, il faut faire un travail de militant absolument incroyable et... Il se murmure que de toute façon tout ça ne sera pas possible, ils ne sont pas capables de le faire quand même. Et ils le font. Et ils le font et ils font plus encore. Ils vont créer une institution qu'on a oubliée aujourd'hui, qui, dans le bouquin, je dis que c'est vraiment une illustration de ce que c'est que la sociale, c'est-à-dire le mouvement social auto-organisé, s'appelle l'AFNOS, Fédération Nationale des Organismes de Sécurité Sociale. C'est quelque chose qui permet aux différentes caisses, de se fédérer et de se poser des questions en commun, de savoir comment on va faire pour gérer au quotidien. Parce qu'évidemment, il y a le souffle de la grande épopée, mais il y a aussi toute la dimension concrète de la gestion au quotidien, et comment est-ce qu'on fait pour mettre en place ces caisses, pour régler des problèmes très concrets de comment on ouvre des droits, quelles limites on se donne, comment on s'organise, etc. etc. Et donc dans cette FNOS, elle va publier une revue à destination des caisses. Elle va produire des systèmes de formation pour former tous ces militants.
Et ces cadres, devenir les cadres de la sécurité sociale.
Ouvriers de la sécurité sociale, enfin ouvriers salariés de la sécurité sociale, et qui vont être progressivement remplacés par les cadres qu'on connaît aujourd'hui, des cadres experts formés dans des écoles...
De management.
Quasi de management, bien sûr. Voilà. Et on voit bien, étant donné tout ce contexte, que tout ça... Ça ne se passe pas dans l'amitié entre les classes sociales, pas du tout.
Ah non, pas du
C'est une opposition de tous les instants. Et dès le début, il ne faut pas attendre le tournant des années 80 pour ça, dès le début, il y a une grande opposition, non pas à la sécurité sociale, au sens d'une politique sociale publique, mais au fait que ça ne soit pas dirigé par l'État. L'opposition, elle est sur le fait que la politique sociale soit dirigée par les intéressés eux-mêmes. Et la première chose qui va être recherchée, c'est pas des réformes visant à faire des économies financières. La première chose qui va occuper les classes dominantes, ça va être de récupérer le pouvoir. Et donc, on peut lire l'histoire du régime général après 1945, dès après 1945, comme le processus de sa réappropriation par l'État. L'État a cherché à se réapproprier l'esprit des mutualistes après la Révolution. Là, il va chercher à se réapproprier une institution populaire qui a plein de limites, c'est sûr. Mais il va chercher à se réapproprier une institution populaire qui n'a pas d'égal, à mon avis, ou très difficilement, il faudrait réfléchir plus sérieusement, dans l'histoire du mouvement social. Il va se la réapproprier pour ensuite imposer sa conception de la protection sociale.
Mieux la couler. Comment mieux la couler ? Ça, on va le voir en troisième partie.
La couler, je ne sais pas, parce que l'idée, vraiment, j'insiste là-dessus. L'idée, c'est pas l'idée aujourd'hui, des personnes qui, aujourd'hui, disons depuis 45, des personnes qui, à travers l'État, se réapproprient la Sécu, c'est pas de dire qu'il ne faut plus de politique publique dans le domaine de la protection sociale, dans le domaine de la santé en particulier. Ils disent pas ça. Jamais, peut-être qu'ils le veulent, mais jamais il est dit qu'il faut en finir complètement avec les sécu. Ce qu'ils disent, c'est que pour la sauver, il faut la réformer, et donc la réorganiser. Comment ? Et donc ça, c'est toute la partie du livre sur les périodes contemporaines, en organisant d'un côté un pôle de la solidarité, pour tout ce qui coûte trop cher pour que ce soit rentable pour les capitalistes, tout ce qui est pour les gens qui ne peuvent pas se payer eux-mêmes une complémentaire santé, et de l'autre côté, le marché. Et c'est en ça que l'idée, vraiment, c'est que l'État social, qui porte les politiques sociales d'une manière étatique, sa façon de concevoir la politique sociale, c'est pas l'État contre le marché, enfin tout ça, ça n'existe pas. C'est l'État et le marché, et on partage le territoire. C'est vraiment cette idée de partage de territoire qui, évidemment, va à l'encontre de l'esprit du régime général et qui cause tous les problèmes, en partie, tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui.
Alors, nous allons faire une pause et nous allons revenir sur tous les problèmes, et notamment la retraite.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. parler d'égalité. Et comme des cons les a crus. Démocratie fait-moi marrer. Si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond y'a qu'une seule règle en somme. Se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien. 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 C'est tellement con, tellement banal. De parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle. Et qu'on mène la chasse aux sans-papiers. Qu'on jette des miettes aux prolétaires. Juste histoire de les calmer. Qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires. Trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés. Tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider. D'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs. Chers citoyens, consommateurs. Le réveil a sonné, il est l'heure. Remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. 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 On lâche rien.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie de notre émission avec Nicolas Da Silva pour son livre « La bataille de la sécu, une histoire du système de santé » aux éditions La Fabrique. Alors, quand j'ai eu en main ton livre, Nicolas, j'ai lu le titre « La bataille de la sécu », je me suis dit « Oh là là, il faudrait que je vérifie la date ». Non pas de la bataille de la sécu, mais la bataille du rail. Ça m'a évoqué tout de suite le film éponyme de René Clément. Et en fait, il est du 27 février 1946. Et c'est la lutte des c'est le film qui présente la lutte des cheminots pendant l'occupation, avec Charles Boyer comme acteur principal. Donc, vraiment, ton livre s'inscrit dans une continuité historique. Et ce qui est beaucoup plus historique, beaucoup plus récent, c'est la préface. C'est la préface de Bernard Friot, mais c'est surtout la dédicace. Très émouvante. Je vais la lire. À mon père, migrant ouvrier du bâtiment, arraché à nous par ce monde à l'âge de 55 ans. Donc on est en plein dans la bataille des retraites.
Ouais. C'est la bataille des retraites aussi, évidemment. La bataille aussi.
Donc tu sais de quoi tu parles.
Oui, bon, après, une dédicace, vous savez, c'est toujours quelque chose d'un peu personnel. Et là aussi, c'est des émotions.
Oui.
mais oui, la bataille de la Sécu, c'est sur les questions de santé, mais c'est aussi sur les questions de retraite. Et ce que j'essaye d'expliquer sur les questions de santé, sans être complètement spécialiste des questions de retraite, on peut les étendre, mes réflexions, et les étendre au sujet notamment de la bataille actuelle qui reprend les précédentes, et pas plus loin que 2019. Hein, rappelez-vous que la dernière fois, on avait en 2019 le confinement a arrêté le projet de réforme déjà d'Emmanuel Macron avec son premier ministre précédent, Édouard Philippe. Donc c'est une bataille continuelle. Et l'un des enjeux qui, enfin, l'une des choses, pardon, qui me frappe et qui permet de comparer ce qui se passe dans le cas de la santé et dans le cas des retraites, c'est le fait que
le même discours.
Le problème n'est jamais un problème d'argent.
Voilà.
Alors, bien entendu, quand on écoute les médias, quand on écoute beaucoup de dirigeants politiques, pas tous, les questions de santé, les questions de retraite sont toujours posées selon la grande façon que j'ai présentée en introduction. La Sécu, c'est génial, mais pour la sauver, il faut la réformer. Il n'y a plus assez d'argent et donc il faut faire des efforts, il faut faire des économies. Et donc ça, c'est le cadre, appelé par un collègue, Julien Duval, dans un bouquin qui s'appelle le mythe du trou de la Sécu. Hein, c'est vraiment cette façon de poser le problème qui fait que, une fois qu'on a énoncé le problème, on n'a qu'une solution qui vient en tête. Bah, s'il y a un trou, s'il y a des abus, il faut faire des économies. Bon. Ce qui se passe pour la santé, c'est très proche de ce qui se passe sur les retraites. Je vais commencer par les santé sur un exemple très contemporain et ensuite j'essaierai de développer sur la question des retraites aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez vu, ce que j'essaye de faire sur le système de santé, c'est de montrer que l'un des enjeux importants, c'est pas tant de savoir combien il y a d'argent, que de savoir qui dirige. La bataille de la Sécu, c'est une bataille conflictuelle sur l'aspect politique. Qui dirige les systèmes publics de protection sociale? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est la sociale? Est-ce que c'est l'État social ou les personnes auto-organisées? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fonction de qui dirige, la forme que va prendre la politique publique va changer du tout au tout, en fait. Évidemment, quand vous avez un État social avec des personnes qui sont formées parmi certaines classes sociales, qui développent des formes d'expertise, ce sont des gens qui peuvent être très compétents dans leur domaine, mais leur réalité concrète, leurs intérêts, les représentations sur le monde qu'elles portent, elles n'ont rien à voir avec les classes populaires. Et donc, elles vont proposer des formes d'organisation qui n'ont rien à voir avec ce que pourraient proposer les classes populaires. C'est pour ça que le premier résultat de la réappropriation de la Sécu après 45, c'est d'en changer la devise. La Sécu, c'était chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça marche. Aujourd'hui, parce qu'on a des élites du welfare, des élites du social, qui sont des élites expertes, qui ont accepté l'idée qu'on dépense trop pour la santé, on dépense trop pour les retraites. Elles ont changé un peu leur façon de concevoir et elles mettent en premier plan les questions les politiques de ciblage. C'est-à-dire qu'on va donner à ceux qui en ont plus besoin. Les autres vont aller sur le marché. C'est ce que je disais avant la pause. On va organiser ce qui relève de la politique publique étatique, l'État social, et le reste, vous allez vous débrouiller sur le marché. Le problème, c'est qu'en fait, non seulement tout ça dilue les solidarités, génère un refus de l'impôt, hein, parce que les gens se disent, mais pourquoi lui, là, et pas moi? Par exemple, plein d'effets de seuil avec la couverture santé solidaire et ce genre de choses. Hein. Moi, je gagne un tout petit peu plus que les autres, et ben j'ai pas accès aux droits, alors que je cotise comme tout le monde. Et effectivement, c'est des questions et c'est des choses des réactions qui peuvent être légitimes. Bon. Pourtant, tout ça ne fonctionne pas. Tout ça ne fonctionne pas parce que les politiques de ciblage ne marchent pas. Quand on cible les plus pauvres, en fait, on sait qu'il y a massivement un non-recours au dispositif. Hein, à l'époque où c'était la couverture mutuelle universelle,
la CMU,
on savait qu'il y a plein de gens qui accédaient pas parce qu'ils connaissaient pas le dispositif, parce qu'ils avaient pas envie de faire les démarches, parce que les démarches étaient trop longues, coûteuses, etc. etc. Donc c'est un panier percé. Hein. Les dispositifs de ciblage pour les personnes les plus malades en ALD, affection longue durée, elles sont censées être remboursées elles aussi à 100%. Sauf qu'en fait, on se rend compte que ce sont celles qui ont le plus de reste à charge. Mmh. C'est-à-dire qu'ils payent le plus de soins de leur poche. Pourquoi? Parce que le dispositif ALD, si vous êtes par exemple diabétique, eh bien, vous êtes remboursé à 100% sur la maladie exonérante, mais pas sur le reste. Or, les personnes qui sont en ALD, elles sont aussi plus malades que les autres. Et donc plus malade pour d'autres maladies. Et donc c'est elle, statistiquement, qui paye le plus de reste à charge. Donc c'est vraiment un panier percé. À l'hôpital, l'hôpital c'est un des lieux, contrairement par exemple à la médecine de ville, où les remboursements sont les plus importants. C'est la politique de ciblage, parce que l'idée c'est de dire que l'hôpital ça coûte très cher, donc on va mieux rembourser. Les taux de remboursement de ce qui se passe à l'hôpital, enfin de l'activité hospitalière, c'est environ 90%, quand en médecine de ville, on est plus proche des 60%, parce qu'on se dit, voilà, la médecine de ville, les gens peuvent payer mieux. Bon, et bah oui, bah c'est 90%, mais quand il reste à 10% de sortir de sa poche, c'est sur des montants très importants. Et donc, il peut arriver plein de fois à ce qu'il bah, reste des sommes très importantes à payer, et ça rend très difficile l'accès aux soins. Donc tout ça, ça ne marche pas. Le cas typique qui montre à quel point ça ne marche pas, c'est celui des complémentaires. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus admis. Pas seulement chez les classes populaires qui le vivent au quotidien, mais c'est admis aussi dans les classes dirigeantes. Qu'est-ce qui est admis ? C'est les complémentaires, ça ne marche pas. Les complémentaires, c'est très cher et c'est très inégalitaire. Alors, je développe un petit peu ça dans le bouquin. Hein. Par exemple, pour un indicateur pour comparer les complémentaires à la Sécu, c'est l'indicateur qui est les frais de gestion. Alors, il y en a d'autres, mais ça, c'est un indicateur. C'est-à-dire que quand, par exemple, la Sécu prélève 100 euros de cotisation sociale, alors, ça ne se passe pas comme ça, puisque la Sécu, sur l'aspect santé, elle est plus financée... elle est financée marginalement par la cotisation sociale parce que l'État a remplacé ça par des impôts. Bon. Mais pour donner un ordre d'idée, quand il y a 100 euros qui vont à la Sécu, globalement, il y en a 95 qui servent à payer des soins, à payer de la production de soins. Quand vous payez 100 euros à une complémentaire, que ce soit une mutuelle à but non lucratif ou un assureur à but lucratif, vous avez globalement entre 15 et 25 euros qui servent à payer des charges administratives. Donc évidemment, c'est beaucoup plus inefficace. De toute façon, le système est globalement inefficace, parce qu'il faut se rendre compte de ce qui se passe dans le système de santé français, qui est assez particulier. C'est que pour un même soin, il y a deux assureurs. Vous allez chez votre médecin, il y a les 70 premiers % qui sont payés par la Sécu et les 30 % d'après qui sont payés par la complémentaire. Ça veut dire que les...
Pour ceux qui ont une complémentaire.
Pour ceux qui ont une complémentaire, évidemment. Ça, j'y viens après, c'est sur les inégalités. Ouais. Mais... Si on reste sur ce cas-là, ça veut dire que pour traiter la même activité, pour traiter la même feuille de soins, si on veut prendre cette image, il faut que la Sécu fasse le job, et après que la complémentaire fasse une deuxième fois le job. Donc on voit bien, on fait deux fois le boulot, pourquoi ? Eh bien parce qu'on a laissé aux complémentaires santé en 1945 le bénéfice du ticket modérateur, alors qu'on aurait dû complètement les liquider. Parce qu'elles sont inefficaces, parce que la FNMF a largement collaboré et était tout à fait d'accord avec la charte du travail, on aurait pu dire, on va rembourser à 100%. Eh bien non, on laisse un marché aux complémentaires. Or, on sait que c'est inefficace. En France, on a les frais de gestion parmi les plus élevés du monde avec les États-Unis. Parce qu'on a un système de double assurance. Et que les complémentaires, ce n'est pas un monopole, donc il y a des frais de marketing. Et il faut exactement la publicité, etc., etc. Bon. Frais d'acquisition de clientèle aussi. Bon, il faut faire des démarches, aller voir des clients, des entreprises, etc. Et alors le plus incroyable, c'est qu'en plus maintenant, c'est des complémentaires obligatoires. Depuis François Hollande, vous savez que les complémentaires, elles sont obligatoires. Donc en plus, tout ça, c'est un marché quasiment rentier, quoi. Un marché rentier qui ne fonctionne pas et qui n'est pas remis en cause. Ça, c'est du point de vue de l'efficacité. En plus, du point de vue des inégalités, c'est terrible parce que... La sécurité sociale, c'est extrêmement égalitaire, puisque tout le monde a accès, alors que ce n'est pas du tout le cas pour les complémentaires. Déjà parce que, tu l'as dit, tout le monde n'a pas de complémentaire. Hein. Il reste quelques millions de personnes qui n'ont pas de complémentaire santé, ça fait 4% de la population. Donc nous, quand on va chez le médecin, la plupart d'entre nous, on paye les 70%, mais il reste 30% à la charge des patients. En plus, quand il n'y a pas d'avance, quand il n'y a pas de tiers payant, pardon, il faut avancer les sous. Et pour plein de gens, avancer 25 euros, c'est énorme, surtout quand on est au RSA, par exemple. Donc c'est très inégalitaire, parce que tout le monde n'a pas de complémentaire. Mais c'est inégalitaire aussi, parce que même quand on en a une, en fait, on n'a pas tous la même. Il y en a qui remboursent bien, il y en a qui remboursent moins bien. Et on se rend compte que globalement, celles qui remboursent les moins bien, ce sont ceux qui sont les plus pauvres aussi. Ou qui travaillent dans les boulots les plus précaires. Parce que maintenant, comme c'est adossé à l'emploi, on a des cumuls d'inégalités. C'est-à-dire que non seulement vous avez un mauvais boulot dans une mauvaise boîte, en plus, cette boîte elle est obligée de vous filer une complémentaire, mais elle vous fait une complémentaire bas de gamme. Alors que si vous avez un super boulot dans une grande entreprise, vous êtes déjà bien payé, vous avez de bonnes conditions de travail, et en plus, vous avez une bonne complémentaire. Et alors, tout ça est complètement inefficace une deuxième fois. Pourquoi ? Parce qu'on sait que statistiquement, la maladie, elle ne choisit pas ses victimes au hasard. Les plus malades sont les plus pauvres. Parce qu'ils vivent dans des conditions qui sont plus dures que les autres. Ils ont des métiers qui sont souvent plus durs que les autres. Et donc, ils sont plus malades. Ils sont plus malades et pourtant, ils ont les complémentaires qui remboursent le moins bien. Donc c'est complètement aberrant. Vous avez des gens qui sont peu malades. Ils ont des complémentaires chers qui remboursent bien. Et après, vous avez des gens qui sont plutôt plus malades et ils ont des complémentaires pas chers qui remboursent pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on subventionne des complémentaires complètement inefficaces. Et ça, ça paraît être un truc un peu radical, mais en fait, pas du tout. Il y a des gens qui sont des hauts fonctionnaires qui le disent depuis des années. Et pas des gens qui sont forcément des gens très radicaux, encore une fois. Régulièrement, vous avez des tribunes de hauts fonctionnaires qui disent quand même, si on faisait le 100% sécu, eh bien, on ferait des économies.
Ce qui est le cas.
Et en plus, on réduirait les inégalités d'accès aux soins.
Tout à fait.
Et c'est ce qui s'est passé en 2021, quand, alors on ne sait pas pourquoi, hein, mais quand Olivier Véran, ministre de la Santé à l'époque, demande au comité sur l'avenir de l'assurance maladie de réfléchir aux évolutions de l'articulation entre la sécu et les complémentaires. Un des scénarios à étudier, c'était justement que la sécu s'étende et rembourse 100% du prix conventionné. 100% du prix conventionné, pour expliquer, hein. Eh bien, quand on va chez le médecin, c'est 25 euros. Aujourd'hui, c'est 70-30. Rembourser 100% du prix conventionné, ça serait 100% par la Sécu. Si le médecin pratique des dépassements d'honoraires, bah ça, la Sécu ne rembourse toujours pas. Donc, ce n'est pas une réforme révolutionnaire. Hein. Enfin, je vais dire. C'est juste dire, bah, s'il y a des soins qui sont prescrits et qui sont payés à un prix qui sont définis entre la Sécu et les professionnels, bah, on rembourse 100%. Bien, faire ça, on pourrait se dire, oh, ça va nous coûter cher encore. Eh bien, pas du tout. Faire ça, bah, on ferait des économies. On ferait 5 milliards d'euros d'économies. C'est ce qui est estimé par le Haut Conseil de l'Avenir sur l'assurance maladie. Vous vous rendez compte, 5 milliards d'euros. Alors, probablement, vous ne vous rendez pas compte, et c'est normal. Hein, mais pour avoir des ordres de grandeur, à la fin du premier confinement, Emmanuel Macron annonce un grand plan, le fameux Ségur de la santé. Et eh bien, le versant investissement, c'était environ 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros pour l'hôpital, alors pas seulement pour l'hôpital, mais bon, je vais être généreux, disons 13 milliards d'euros pour l'hôpital, sur 10 ans. Eh bien, en liquidant les complémentaires dans le financement des soins prescrits, au tarif opposable, ben on pourrait se payer quasiment un Ségur de la santé tous les 2 ans, hein, plutôt que 1 sur 10 ans. C'est des sommes considérables. Et évidemment, il y a une conscience de plus en plus massive sur le cas des complémentaires santé que la situation ne va pas. Mmh. Et pourtant, on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas ? Pas parce que les élites politiques sont idiotes. Elles ne savent pas, elles ne comprennent pas comment ça marche. Dans les ministères, alors je suis un peu sévère avec la tasse sociale et je l'assume complètement, mais dans les ministères, il y a des fonctionnaires à tous les niveaux qui sont très fervents partisans de l'extension de la sécurité sociale, parce qu'ils savent que ça marche mieux. Et pourtant, on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas ? Bien justement, parce qu'aujourd'hui, ceux qui maîtrisent les politiques publiques de santé, c'est l'État et pas les gens.
Voilà. Pareil pour les retraites.
Eh bien, allons-y sur les retraites.
Allons-y.
Alors, évidemment, je connais moins bien, mais c'est forcément quelque chose qui est dans mon champ, donc j'en parle, et d'ailleurs dans le bouquin, j'ai une citation que j'aimerais bien lire, qui montre à quel point l'enjeu pour les classes dominantes, c'est de remettre en cause les progrès sociaux, quels que soient les arguments, quelles que soient les situations. Parce qu'on nous dit aujourd'hui, on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. C'est le catéchisme, hein, d'accord ? Il faut être très croyant.
Non, c'est une antienne.
quand on écoute les arguments, ça relève vraiment des fois. Enfin, donc voilà, c'est des poncifs, hein, vraiment. On vit plus longtemps, on travaille plus longtemps, on est plus nombreux à être vieux. Alors du coup, il faut étendre. Enfin, il faut travailler plus longtemps, parce que bon, comment on va faire pour financer cette horde de vieux à la retraite, c'est pas possible, etc., etc. Bon, on a l'impression que tous ces arguments sont neufs. Je l'ai dit un peu tout à l'heure. En fait, non, tout un tas d'arguments ne sont pas neufs du tout et ils sont déjà développés par des opposants à la sécurité sociale depuis le début. Alors, quand je dis depuis le début, je pourrais remonter loin. Hein, je l'ai dit, hein, le bouquin commence à la Révolution. Mais là, j'ai exhumé un débat parlementaire de 1949. La Sécu, elle est mise en place, les ordonnances, c'est 45, elle est mise en place en 46. La Sécu a 3 ans. Et déjà, on a un député, alors pas n'importe lequel, hein. C'est Paul Reynaud, c'est un ancien président du Conseil sous la Troisième République, qui avait évidemment été un président du Conseil de droite très dur avec les mouvements populaires. Il s'était opposé au deuxième jour de congé dans la semaine, il appelait ça la semaine des deux dimanches. Hein. Donc c'est vraiment pas un gars sympa. Et donc là, on est... enfin, pas sympa, ça dépend pour qui. Hein. On est en 49, et qu'est-ce qu'il nous dit ? Je lis, hein, je me permets... On dit souvent que les progrès de la science ont pour effet de prolonger la vieillesse. La vérité, c'est que les progrès de la science ont d'abord et surtout pour effet de prolonger l'âge mûr, pendant lequel l'homme peut produire. C'est un fait qui ne peut être ignoré dans un pays dont le ministre du Travail dit, avec raison, qu'il manque de main-d'œuvre. D'autant que le rôle du cerveau est de plus en plus grand par rapport à celui des muscles. Or, le cerveau vieillit moins vite que les muscles. Dans ces conditions, un pays où l'âge moyen est élevé et dont la Constitution déclare que les citoyens ont droit au travail ne saurait interdire le travail à un homme qui peut continuer à produire. Il est d'ailleurs un pays gouverné par des socialistes, la Suède. Ou pour établir l'âge de la retraite, on a étudié la pyramide des âges. Vous savez que la situation démographique de la Suède est assez semblable à la nôtre. On y est arrivé à cette conclusion que l'âge normal de la retraite, il peut y avoir bien entendu des exceptions, est de 67 ans. Alors, on est en 49, 1949.
Rien n'a changé.
L'espérance de vie générale, même pas des ouvriers, enfin des hommes, elle est autour de 60 ans. La retraite, elle est à 65 ans, et on nous dit qu'il faut déjà la déplacer à 67 ans. Hein? Alors évidemment, moi je ne suis pas partisan de dire que rien ne change jamais. Il y a des choses qui changent, c'est sûr, mais dans l'argumentation, dans la rhétorique, les opposants, les adversaires à la sociale... à des formes de protection sociale organisées, ont toujours d'excellents arguments, en tout cas sur le papier, pour s'opposer aux progrès sociaux. Et pourquoi, à cette époque-là, on n'étend pas à 67 ans l'âge de départ à la retraite ? Tout simplement qu'il y a un rapport de force qui l'interdit, hein, dans la rue. Et donc c'est pour ça qu'on était content d'être dans la rue le 19 et qu'on y retournera très, très bientôt, mardi prochain, je crois.
Oui, plutôt 30 ans.
Mais tout ça pour dire que voilà, des arguments, il y en a plein. Sauf que, en fait, aller dans cette argumentation, par exemple celle sur l'augmentation de l'espérance de vie, c'est vrai. Mais en fait, c'est déjà accepter, disons, le paradigme, la problématisation de l'État et des forces dominantes. Parce que, finalement, quand on regarde même des documents qui sont écrits par des institutions officielles, il n'y a pas de problème pour les systèmes de retraite. Hein. Vous regardez justement ce que dit le rapport du corps du Conseil d'orientation des retraites. C'est intéressant parce que le Conseil d'orientation des retraites, c'est quelque chose qui est très proche du HCAM dont j'ai parlé tout à l'heure, au Conseil sur l'avenir de l'assurance maladie. C'est pas des radicaux. Enfin, c'est des personnes qui viennent de milieux qui sont des milieux relativement conservateurs, quoi. Et pourtant, ils disent que non, il n'y a pas de problème concernant le financement des retraites. Il peut y avoir des déficits, mais qui ne remettent pas du tout en cause l'équilibre général du système de retraite. C'est de l'ordre d'une dizaine de milliards d'euros. Ce qu'il faut comparer, parce que 10 milliards d'euros, on se dit, ouais, c'est énorme, mais il faut comparer ça par rapport à ce que représente le système de retraite, ou même la sécurité sociale, où c'est plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc, le rapport du corps ne dit pas ça du tout. La première chose que dit le rapport du corps, et il y a une synthèse de 3 pages que j'invite tout le monde à aller lire, hein, il ne faut croire personne, hein, surtout pas moi. Ne me croyez pas sur parole. Il faut aller lire 3 pages, et en fait, sur la synthèse, le premier point sur lequel insiste de façon très, très forte le corps, c'est le fait que les dépenses de retraite baissent déjà. La part que la France consacre aux dépenses de retraite dans la richesse nationale, a déjà tendance à stagner, voire à baisser, et c'est ce qu'elle continuera à faire dans le futur. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences tout simplement par le fait que les gens partent avec des retraites de moins misère. Bon niveau. Misère.
Oui,
pourquoi
misère.
Pas, oui.
Ouais, allez hop.
Allons-y. Mais en tout cas, les gens qui partent aujourd'hui partent dans des conditions qui sont beaucoup moins favorables qu'hier. Mmh. Et on a une forme déjà de paupérisation annoncée sans nouvelle réforme supplémentaire des retraités. Alors que finalement, le système n'est pas du tout en danger d'un point de vue, d'un point de vue financier. Et donc, on a là-dessus un gouvernement qui nous dit « Oui, mais vous vous rendez compte, on vit plus longtemps, alors il faut travailler plus longtemps, et le système est en danger. » Pas du tout. Et d'ailleurs, lui-même le dit, dans un document qu'il envoie régulièrement aux instances européennes pour expliquer quels sont les enjeux macroéconomiques du pays. L'année dernière, le document, alors je ne me rappelle plus exactement du nom, je ne sais plus si c'est pacte de stabilité ou projet, programme de stabilité, il explique, et je finis en une seconde là-dessus, hein, il explique que, eh bien en fait, le projet du gouvernement, c'est de continuer à baisser les impôts, en particulier pour les grandes entreprises, et que pour ce faire, noir sur blanc, allez le voir, hein, première page du document, et que pour ce faire, qu'est-ce qu'il va entreprendre, surtout pas une augmentation des prélèvements obligatoires, des impôts, des cotisations, il va privilégier des réformes structurelles, notamment la réforme des retraites. Donc, les retraites, si elles sont en danger, c'est parce que l'État a décidé de favoriser le capital plutôt que les classes populaires.
Ce qui n'a pas changé depuis que tu as expliqué la bataille de la Sécu, depuis 1789. Voilà. Donc, conclusion, il faut s'auto-organiser, donc on sera très nombreux le 31 dans la rue. Merci Nicolas. Donc je rappelle le titre de ton livre, La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé, avec une préface de Bernard Friot, aux éditions La Fabrique. Merci beaucoup.
Merci.
Chers auditeurs,
merci.
Rendez-vous dans
15
jours.
Merci Nicolas, c'était super ton truc.
Voilà, rendez-vous dans 15 jours et restez sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Merci beaucoup, au revoir.
Le vent, j'ai dessiné en 1027. Un cœur rouge, il y aurait d'un gars sans oublier l'urée de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse une lunette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je joue le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi interdit le territoire, j'ai fait appel à Marceau Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toute les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans exiger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entendit d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge, tu juges, ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'un âne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée. Parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience. Aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous me la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous me la preuve. La rage.